Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vas-y, très vite.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Non, mais c'est important, Nico, parce que bien sûr, je me la raconte un peu sur le hug avec tout ça. Mais
je vais essayer d'être honnête, ce qui est déjà pas mal. L'objectivité, je sais pas ce que c'est.
Alors,
par contre, honnêteté, j'essaie de l'être.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être agent.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After, spécial Drôle de Dame. Émission exceptionnelle ce soir, déjà parce qu'on est dimanche et pas lundi. Mais pas de Ligue 1 en ce 5 mai, en hommage aux victimes de Furiani. Le match Lille-Lyon aura lieu demain soir, ce sera évidemment en direct sur RMC. On a donc convoqué les drôles de dames 24 heures plus tôt pour lancer cette semaine européenne de folie qui nous attend. En ce dimanche, il est là, prêt à nous parler pendant 2 heures de la très bonne saison du Bayern. Salut Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde, je confirme mes biens.
En ce dimanche où l'Italie se passionne pour le Roma Juve de ce soir ou pour le Giro qui vient de démarrer, lui fait une pause de 2 heures dans ses célébrations de la remontée d'Auxerre en Ligue 1. Salut Johan Crochet.
Exactement, salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
En ce dimanche, le plus dur a été de réussir à trouver 2 heures où il ne bossait pas déjà ailleurs, entre une émission pour la BBC et un duplex pour la télé indienne ou pakistanaise, ou les deux. Julien Laurent est avec nous, salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous. Je suis content de voir que Nico Jamin ne travaille pas le dimanche, lui, en revanche. C'est ça ce qu'il m'a compris.
Absolument. Et en ce dimanche, jour du Seigneur, on lui a dit amen. Amène-toi, RMC, pour bosser un petit peu. Salut Fred Hermel.
Hola, Chicos. Très bonne. Très, très bonne introduction.
Les gars, c'est parti pour vos 3 points du week-end, quelque part. On va commencer avec Polo.
Bon, évidemment, on va revenir sur la démonstration un peu surprise du Borussia Dortmund contre Augsbourg. On va s'intéresser à l'état du Bayern Munich avant la rencontre retour contre le Real Madrid. Et notamment, le thème particulier des chouchous allemands en ce moment, c'est quel coach pour l'année prochaine. Et puis, on aura une petite minute spéciale sur un partenariat qui m'intéresse beaucoup.
Johan.
On va évoquer l'AC Milan, alors pas l'AC Milan qui vient de faire un match nul 3 partout contre le Genoa, énième mauvais résultat consécutif, mais le Milan en coulisses, le choix du nouvel entraîneur qui est bien difficile avec un poids donné aux supporters un petit peu étonnant. On va évoquer un petit peu tout ça, on va parler de la lutte pour le maintien en Serie A. Beaucoup de choses, beaucoup de duels à venir entre équipes concernées directement et pas mal de potentielles très mauvaises surprises pour des clubs qui n'étaient pas attendus là. Et puis du côté de la minute, on parlera de Bologne.
Julien.
On va revenir sur le Liverpool-Tottenham de cet après-midi qui était assez spectaculaire et on a plein de choses à raconter aussi sur Klopp, sur Mo Salah et sur Ange Postecoglou. On parlera de Phil Foden qui a été élu meilleur joueur de la saison. C'est un peu bizarre parce que la saison elle n'est pas encore terminée. Et puis on aura une musique sympa sur un nouveau promu. Ils ont déjà été en Première Ligue, mais un nouveau promu pour cette saison, pour la saison prochaine de Championship à la Première Ligue.
Fredo.
Habemus Campeon, ça y est, le Real a été sacré, bon, sans s'en douter. Mais la belle nouvelle, c'est qu'on aura Gérone en Ligue des Champions la saison prochaine, qui a le même problème que Metz d'ailleurs avec son petit stade. Il va falloir trouver une solution, Brest. On en parlera.
Brest.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Metz.
Metz, Brest, pardon.
Metz, il se pose pas la question.
Oui, je sais, malheureusement. Mmh. Et on va parler, bien entendu, de cette équipe de Gérone, mais aussi du Barça, avec une défaite encore. Mais le Barça qui était plombé par sa défense cette saison. Et puis, on va parler d'une blanche colombe qui vient pour essayer d'apaiser les tensions à la fédération.
Voici votre programme sur RMC, Génération After, spécial Drôle de Dame jusqu'à 22h. Et on vous attend d'ailleurs au 32-16 pour votre quart d'heure, les Drôles de Dame face aux auditeurs à 21h45. Et à 22h, ce sera l'After. Salut Gilbert Bribois.
Salut les gars. Alors Thibaut, déjà, je voulais te rendre hommage, c'est sympa dans Génération After d'accueillir des plus de 50 ans. Je voudrais sur parler de Fred Hermel et Jean-Luc Roy qui est dans le studio.
Oui. Hein, oui.
Voilà.
Parce que toi, t'as pas 50 ans.
Non, j'étais sûr que t'allais dire ça. Eh ben non.
Non, il les a pas.
Eh ben non.
Eh ben, moi, à ta place, je m'inquiéterais parce que tu l'as fait, tes 50.
Ouais. T'as vu la vengeance, la basse vengeance.
Ah bah ouais. Bon, en même temps, on va être honnête, j'ai pas eu le choix. Mais bon.
Voilà. Alors, à 22h, il y aura des jeunes. Aurélie Dacherchour et Florent Gautreau.
Gautreau, il est pas loin de 50, hein, lui aussi.
Quand même qu'il les a dépassés.
Ah bah ouais, tu vois.
Il le fait pas, c'est ça.
Non, il le fait pas. Ouais. On somme toujours à Daniel Craig. Mmh. Bon, c'est vrai. De loin.
C'est comme Robert Redford.
2 heures de Ligue 1, bien sûr. Après les matchs d'hier, on va parler de la VAR, notamment. Walid veut en parler, des décisions arbitrales. On va parler de Rennes, Florent veut en parler. Et puis, vu qu'on est sur une semaine de Coupe d'Europe qui démarre là, on veut faire ce débat qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis une éternité parce qu'il y a eu beaucoup de matchs ces derniers temps. Comment comprendre le désamour des supporters du PSG pour Kylian Mbappé?
Ah, c'est un très bon débat, ça.
Moi, je comprends pas.
Je te rejoins assez là-dessus.
Il y a vraiment des amours.
Mais c'est incroyable, tu t'imagines même pas.
On a des discussions ici parfois où.
T'as des mecs qui sont supporters du PSG, tu vois, c'est l'impression que c'est leur sang, ils ne supportent plus Mbappé, Julien, je ne comprends pas.
Ah, c'est un bon débat, c'est un très bon débat.
Bon, après, il sera aimé bientôt par d'autres. Hein. Bon, qui sont plus nombreux d'ailleurs.
Ah, peut-être.
Bah, oui, c'est.
Ben voilà, voilà quelques-uns de nos thèmes. Tout à l'heure, de 22h à minuit, on vous attend au 32-16.
A tout à l'heure, Gilbert, avec Flo Gautreau et Walid Acherchour. Il est 20h05. Sachez qu'on parle du Paris Saint-Germain. C'est dans deux jours, face au Borussia Dortmund, en demi-finale de Ligue des Champions. Et l'expérience RMC, vous pouvez la vivre et la gagner pour justement profiter de cet événement. Avant match, visite des studios RMC, rencontre des équipes, direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Et enfin, retour à RMC pour voir les coulisses de l'after, pour le débrief du match et même participer, pourquoi pas, à la libre antenne avec vous tous. Dès que vous entendez ça, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16 pour vous inscrire. L'alerte peut tomber n'importe quand. Soyez bien attentifs pendant l'émission, pendant les pubs même. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC. Je vous rappelle qu'on est également l'After a démarré en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Bienvenue à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à venir nous voir et commenter votre soirée. Polo, on y est presque déjà, à deux jours de cette demi-finale, retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. On avait fait pas mal de... On s'était posé la question, avant la confrontation, on savait que le Paris Saint-Germain ne jouait pas ce week-end, Dortmund avait ce match en plus, pile au milieu contre Augsbourg, et finalement, ce match a servi à Dortmund de faire le plein de confiance.
Oui, enfin, il y a beaucoup d'informations. Déjà, je ne sais pas si c'est un match référence pour le Borussia Dortmund, puisque les 10 joueurs de champ étaient changés par rapport à ceux qui jouaient contre le PSG. Le seul titulaire contre le PSG lors du match aller, c'était le gardien Gregor Kobel. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai été extrêmement déçu par la prestation bavaroise d'Augsbourg, qui se bat quand même pour la 7e place et pour une qualification pour l'Europa Conference League, puisqu'on se rappelle que la finale de Coupe d'Allemagne, c'est entre Leverkusen et Kaiserslautern. Kaiserslautern est en seconde division, donc on peut dire que Leverkusen est archi favori pour cette finale de Coupe d'Allemagne. Donc la prestation, si tu veux, a été dramatique lorsque tu es mené 4 buts à 1 au bout de 35 minutes, alors que tu joues quasiment le match le plus important de la saison. Tu peux pas te satisfaire de ce qui s'est passé. Donc, et la deuxième chose, c'est, je viens de le dire, c'est qu'il y a quand même 10 changements par rapport au match contre le PSG. Donc, ce n'est pas si important, cette rencontre. Et autant on avait le droit de relativiser la défaite à Leipzig qui plantait des 3 buts à tout le monde il y a une semaine, autant on peut ne pas faire des gorges chaudes du côté de Dortmund après cette rencontre, parce que ce ne sera pas du tout la même composition. Ce qui me semble important, par contre, c'est que Malen était titulaire. Et Malen, il est théoriquement dans le 11 de départ. Donc, ça veut dire, d'autant plus qu'Adeyemi ayant reçu une béquille, il est possible qu'on assiste à un certain changement. Et Malen a marqué en plus, donc il a sûrement pas encore 90 minutes dans les pattes, mais il est possible qu'il soit titulaire. En tout cas, il est une possibilité pour Edin Terzic pour jouer contre le PSG. Donc voilà, la confiance, je veux bien. La confiance pour ceux qui ne jouent pas, surtout. Le reste, si tu veux, j'ai été très déçu par la rencontre, encore une fois, du côté d'Augsbourg. Donc je n'en tire pas de conséquences plus que ça, d'autant plus que le Borussia Dortmund nous a habitués tout au long de la saison, y compris l'année dernière, à avoir des excellentes périodes de 3-4 matchs où ils gagnaient toutes les rencontres, puis de rechuter systématiquement. Mais rappelez-vous, ils se prennent une raclée à Leipzig, ils gagnent contre le PSG, là ils enchaînent, c'est pas pour ça qu'ils vont se qualifier contre le PSG ou qu'ils vont venir en favori au Parc.
Justement, même la logique, ce serait l'inverse, du coup, vu ce que tu nous dis.
Bah oui, mais moi c'est ça le problème, ouais. De toute la saison, le Borussia Dortmund n'a pas fait d'énormes performances. Ils ont fait des résultats, mais pas d'énormes performances. Et surtout, ils sont d'une inconstance notoire. Moi, je constate, si je reviens sur le match aller, qu'il y a toujours deux statistiques qui m'intéressent vraiment. C'est le nombre de kilomètres parcourus. Et là, il faut sérieusement que l'effectif parisien se pose des questions, parce que lorsqu'on court 10 kilomètres de moins que son adversaire, c'est qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Et l'autre statistique qui m'intéresse, c'est les passes réussies. Et parce que ça montre souvent la qualité technique des équipes. Et là, le PSG, encore une fois, avec plus de 90% de passes réussies, est largement supérieur au standard du Borussia Dortmund. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité individuelle, et vous pouvez voir ça sur l'ensemble de la saison, est nettement moins importante du côté du Borussia Dortmund, qui tourne en gros à 85%, qui parfois est descendu en dessous de 80%, je reviens pas sur ces fabuleuses purges contre le PSV Eindhoven, et qui, alors que le PSG est souvent à 90, voire plus. Donc la qualité technique des Parisiens est supérieure, ce qui me faisait dire qu'ils étaient le favori pour la double confrontation. Ensuite, lors du match aller, il y avait une chose qui moi me semblait importante, c'est que je voulais pas que le PSG se noie à Dortmund. Et c'est ce qui s'est passé. Un but d'écart, c'est pas si grave que ça. Moi, sur les 180 minutes, j'enlève des potentielles prolongations, donc au match aller plus match retour, j'ai du mal à croire que le PSG ne va pas scorer au minimum une fois. Donc ça veut dire que la qualification du Borussia Dortmund passera forcément par un but au parc. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ça, pour moi, c'est une grande interrogation.
Et c'est une question que je vous pose à toutes les drôles de dames. Est-ce que vous pensez que là, Dortmund, qui jouait ce week-end, on en a parlé, valait mieux se reposer, s'entraîner, comme l'a fait le Paris Saint-Germain? Ou finalement, tu dis, il y avait un match qui aurait pu être, enfin, piège, tu peux toujours te blesser, te fatiguer pour le Borussia Dortmund, et finalement, t'as fait le plein de confiance, que t'as donné du temps de jeu à tout le monde, t'as cartonné, bon, il y a la petite béquille d'Adeyemi, mais t'as même pu faire rentrer des joueurs qui manquaient un peu de rythme, est-ce que finalement c'était pas mal d'avoir fait ce match?
Je sais pas. En fait, c'est pour le Borussia. Nous, d'un point de vue extérieur, c'est plus difficile. Je pense que c'est surtout aux entraîneurs, parce que nous, on a eu un cas en Italie, par exemple, avec une semaine avant le match contre Leverkusen, la Roma a dû jouer 20 minutes qui restaient du match à Udine. Donc en fait, ils ont eu des matchs joués 3 jours juste avant le match contre Leverkusen, et en fait, ils sont arrivés contre Leverkusen, qui a largement dominé. Il y a même pas de débat. Mais totalement cramé en fait. Donc je pense malgré tout que avoir un tour de repos, ce qui revient presque à ce qu'a fait Dortmund, puisque Dortmund a tellement changé que les titulaires, c'est quasiment une séance de décrassage pour ceux qui sont rentrés, et puis les autres, ils ont pas joué, donc ça revient quasiment au même.
Bah c'est en fait c'est bien d'avoir un match quand tu peux tourner, sinon je vois le Real ce week-end, ils ont encore fait tourner pour gagner contre Cadix, mais tourner, c'est 90% de joueurs qui ne vont pas débuter contre le Bayern. La semaine dernière à Saint-Sébastien, c'était pareil. Donc en fait, c'est bien parce que t'as une certaine dynamique, et puis tu... Non, je trouve ça bien. Après, quand t'as un match très important à disputer pour le titre, et que tu peux pas faire tourner, c'est un problème.
Ce qui n'était pas le cas, puisque la cinquième place de Dortmund n'était pas menacée, quoi qu'il arrive, à les qualificatifs.
C'est la situation du club à un moment donné qui dicte ce qu'il y a de bien ou pas. Quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, pour cette rencontre, Polo, il y a eu cette victoire, il y a eu la fête autour de Marco Reus, qui a annoncé son départ, qui a fait un bon match et qui a été célébré par son public.
Marco Reus, évidemment. Alors, tu te demandes parfois pourquoi il n'est pas encore titulaire cette saison, mais bon, vu les relations qu'il a avec son coach, c'est un petit peu délicat. Donc un but de passe décisive, 155 buts en Bundesliga, 117 passes. C'était l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération en Europe et dans le monde. Il a malheureusement été souvent blessé, ce qui l'a empêché notamment d'avoir un petit palmarès en équipe nationale. Il partira à la fin de la saison, il ne raccrochera pas les crampons. Donc ça, il a été évidemment fêté par le Westfalenstadion, et ça, c'est une excellente chose. Mais voilà un joueur qui, tu vois, on parle toujours des ballons d'or, des ceci, des cela, mais quand t'as un joueur, hein, on le surnomme Woody Woodpecker, faut pas l'oublier, Woody, et il est très fin, très dans le jeu évidemment, mais aussi physiquement, ça manque ce genre de joueur, parce que tu as l'impression qu'il rentre pas dans tous les canons du football moderne. Je sais pas trop où on le mettrait aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait évoluer en première ligue quand je vois les Golgoths qu'il y a là-bas. Donc toutes ces choses-là font que ça va encore être un joueur, j'espère qu'il va rester en Bundesliga, parce qu'on va voir ça, mais surtout, bon, c'est l'un des joueurs les plus importants du football allemand des 15 dernières années.
Paris Saint-Germain-Dortmund dans 2 jours, hein, déjà, ce sera au cœur de cette semaine exceptionnelle qu'on va vivre tous ensemble sur RMC, le match mardi 21h, l'after dans la foulée jusqu'à minuit et demi, et la libre antenne avec vous tous au 32-16 jusqu'à 1h30 du matin. D'ici là, en ce dimanche soir, Génération After spécial drôle de dames, pas de Ligue 1, mais les drôles de dames sont là, et dans un instant, la première ligue au programme, l'affiche opposée aujourd'hui Liverpool à Tottenham, et c'est Liverpool qui s'est imposé au terme d'un match spectaculaire. On en parle dans un instant, plus la minute de Yoann Crochet, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
avec les drôles de dames, émission exceptionnelle en ce dimanche soir. Sans Ligue 1, Fred Hermel, Paulo Breitner, Johan Crochet et Julien Laurent sont là avec vous jusqu'à 22h. N'oubliez pas 32-16 pour nous appeler, venir poser vos questions aux drôles de dames à 21h45. On est toujours en direct sur YouTube, sur le Direct Studio également, où il y a Lisa qui envoie un message qui dit: est-ce que Johan Crochet aurait des idées de stade avec des bonnes ambiances en Italie? Je sors de San Siro, peu d'ambiance, à part sur les buts, alors qu'on m'avait promis un truc de fou.
C'est parce qu'il y a la contestation. Il y avait contestation des supporters de Milan aujourd'hui, avec grève des encouragements pendant une bonne partie du match, d'où l'ambiance pourrie. C'était vraiment pas le bon moment pour la San Siro, parce que pour le coup, San Siro, que ce soit côté Inter ou Milan, c'est la plus grosse ambiance, notamment aussi parce que le stade fait que le son est pas mal retenu. Et donc, cet effet caisse de résonance qui est présent. Mais sinon, vous pouvez aller voir un match de la Roma au Stadio Olimpico, c'est pas mal. Le Napoli, il fallait y aller la saison dernière, pas cette saison. On n'a pas... Après, en Serie B, il y a des trucs sympas. Aller à Palerme, par exemple. Palerme, c'est vraiment une belle expérience.
Il faudra retourner en Italie, Lisa, apparemment. Vous dire qu'aujourd'hui, donc, il y a eu 3-3 pour ce match entre l'AC Milan et le Genoa. À suivre dans Génération After Drôle de Dame, l'Espagne, d'ici un quart d'heure. Et Gérone qui a renversé le Barça et qui a assuré sa qualif en Ligue des Champions. Mais d'abord, la Première Ligue et cette journée, Julien, qui a été marquée par l'affiche entre Liverpool et Tottenham. Le match d'après, l'embrouille, Salah, Klopp. Et c'est Liverpool qui s'est facilement imposé 4-2.
Ouais, un match qu'on attendait beaucoup, forcément. Après, tu l'as dit, l'embrouille entre Klopp et Salah qui était titulaire, qui a été très bon d'ailleurs, qui a marqué, qui a fait une passe décisive, qui est pas vraiment une passe décisive, hein. On en parle souvent avec Johan, mais c'est pas décisive, qui sert à rien, c'est juste une passe latérale. Et après, Harvey Elliott met un but fantastique, pied gauche, pleine lucarne opposée, mais on va donner la passe décisive à Salah quand même, parce que c'est la dernière passe avant l'exploit d'Elliott, mais quand même, elle compte dans les stats et tout ça. Donc un Salah, en bien meilleure forme, un Liverpool en bien meilleure forme que ce qu'on avait vu à West Ham notamment, surtout à Everton lors de la défaite qui, finalement, les condamne dans cette course au titre. Apaisé, Jurgen Klopp aussi sur le banc, dans sa relation avec Salah, mais aussi dans ce qu'on avait pu voir un petit peu de frustration de sa part sur les dernières semaines. En revanche, pour Tottenham, c'est de pire en pire. Alors pendant 70 minutes, ils ont pris une leçon de football, ils ont marqué 2 buts en fin de match, Richarlison et Son, 72e, 77e, mais avant ça, c'était une vraie leçon de football, leur 4e défaite de suite, 1 victoire sur les 6 derniers matchs de championnat, 4 défaites de suite. Alors c'est des grosses équipes, contre à Newcastle d'abord, contre Arsenal à domicile, à Chelsea et donc maintenant à Liverpool. Ils ont encaissé 4 buts contre Newcastle, 3 contre Arsenal, 2 à Chelsea et encore 4 ce soir. Notre ami Ange Postecoglou, on a beaucoup parlé, notamment en bien en début de saison, où ils étaient en super forme, ça gagnait, c'était en tête du championnat, ça gagnait, ça jouait très bien. À l'époque, il nous avait dit, notamment, je comprends pas les entraîneurs qui disent, moi j'aimerais bien jouer de telle façon, mais j'ai pas le joueur pour. Et il avait dit, voilà, bah t'as qu'à le faire, fais-le quand même, mate. Tu sais, il dit souvent le mot mate en anglais parce qu'il est cool, Ange Postecoglou. Sauf qu'il a un peu changé son discours quand même, puisque avant-hier il nous a dit qu'il y avait pas mal de changements à faire dans son effectif parce qu'il avait pas les joueurs pour jouer comme il voulait.
Ah bah.
Alors il y a quelques mois, il nous dit que quand tu veux jouer d'une certaine façon, même si t'as pas les joueurs pour, bah fais-le quand même. Oui. Aujourd'hui, quand ça va mal après 4 défaites de suite, il dit. J'ai besoin de changer les joueurs de mon effectif, j'en ai besoin d'autres parce que ceux-là ils conviennent pas à ce que je veux faire.
Le contexte est plus fort que le concept, comme disait le poète.
Tout à fait. Mais après, je respecte, il a raison dans un sens parce qu'il a hérité d'un effectif et pas son effectif déjà, qui était un effectif qui avait été construit par Mourinho, Nuno et Conte, qui ont des styles de jeu complètement différents du sien. Donc, il a tout à fait raison sur le fond. Arteta, Klopp, Guardiola, lui, avait déjà un très bon effectif quand il est arrivé, mais pour Klopp et Arteta notamment, ils ont dû changer quasiment 80% de leur effectif pour arriver là où ils voulaient avec le jeu qu'ils voulaient. Donc lui aussi doit faire ça, bien sûr.
Puis il a perdu Kane aussi, Julien, quand même.
Oui, il a perdu Kane aussi. Mais t'as un peu l'impression, Yo, qu'il s'en sert un petit peu comme une excuse aujourd'hui après toutes ces défaites-là, en fait. Voilà, c'est ça qui me gêne un tout petit peu plus dans sa rhétorique.
Après, il y a une logique, hein, par rapport à tous les autres concurrents. Enfin, tu vois, tu prends effectif à effectif, hormis Newcastle, je pense, où, ça peut se discuter, mais les autres, effectif à effectif, c'est pas déconnant, entre guillemets, que Tottenham perde contre ces clubs-là. Le truc, c'est juste la série et comment tu réussis à inverser la série ou en tout cas te remettre à gagner, parce que là la Ligue des Champions compliqué, hein.
Ah, c'est fini, là. Ouais, 7 points, il y a 7 points d'écart et
même s'ils ont un match de retard.
Ouais, ils ont un match de retard, donc c'est pas fini, mais bon, c'est pas ça va être compliqué quand même par rapport à Aston Villa, et ça se rapproche un petit peu derrière. Alors il reste effectivement ce match en retard à jouer contre Manchester City d'ailleurs à domicile, oui, cette fois, mais après oui, t'as raison, même si tu peux regarder l'effectif d'Aston Villa et te dire que finalement les deux, peut-être pas grand chose entre les deux, mais il a raison sur le fond. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'investissement. Il va falloir laisser partir des joueurs aussi. Je sais pas qui viendra chercher Richarlison par exemple, qui même s'il a marqué aujourd'hui et fait passe d'aise, qui est plus trop en odeur de sainteté. Je sais pas moi qui va aller chercher un Højbjerg non plus. Alors ils trouveront toujours des clubs, mais à quel prix, et surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir réinvestir derrière? C'est ça qui va être intéressant à suivre.
Oui, il annonçait beaucoup de changements à venir cet été. On est sûr qu'il en fera pas partie de ce changement, Postecoglou?
Non, parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses et puis finit cinquième.
Oui, mais il est en train de finir de manière catastrophique, quoi. Faudrait voir.
Ça c'est sûr.
C'est ça le problème.
Ça c'est sûr, ça se complique. Mais après, ça faisait, je pense que il est assez expérimenté, il a assez de bouteilles dans le milieu pour savoir que tout allait pas être non plus super rose et qu'au final, les 10 premiers matchs championnat où ils sont excellents, ça n'allait pas durer non plus. Mais c'est vrai qu'il a fait des erreurs, lui, sur le terrain, tactiquement, dans la gestion de son effectif, dans la gestion des temps forts et des temps faibles de son équipe pendant la saison. Il a peut-être pas aussi, effectivement, l'effectif qu'il lui faut pour jouer exactement comme il le souhaiterait. Mais après, ça reste quand même assez positif et la dynamique à porter, notamment pour la saison prochaine.
Julien, est-ce que en Italie, sur les sites économiques un peu liés au sport, on parlait beaucoup d'une éventuelle vente de Tottenham? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance? Parce qu'on parlait d'investissement là, à faire, de joueurs à laisser partir et réinvestir, mais s'il y a une incertitude au niveau de l'actionnariat, est-ce que tu peux investir autant?
Non, c'est une bonne question. Alors, le club avait officiellement communiqué il y a un mois de ça, ou peut-être un tout petit peu plus, 6 semaines de ça, que des nouveaux investisseurs allaient venir au club, sans qu'on sache vraiment à quelle hauteur.
Ouais.
Si c'était 10%, 15%, 20%. On sait donc que Joe Louis, qui est le milliardaire britannique qui habite à la Barbade tranquillement sur son île privée, milliardaire, qui a 83 ans je crois maintenant, qui en a rien à faire du foot, mais qui reste le propriétaire du club. On sait que c'est Daniel Levy qui a lui 10% je crois ou 15% des parts, qui gère le club au jour le jour, qui le fait plutôt bien d'ailleurs. Mais après effectivement, ces nouveaux investisseurs, on ne sait pas qui ils sont déjà, d'où ils viennent et à quelle hauteur ils vont arriver. Mais oui, je pense que par rapport à ce que par rapport aux finances, au pouvoir financier on va dire de cette équipe là et du club, je pense pas qu'il pourrait investir de manière assez agressive pour faire plaisir à Postecoglou sans l'arrivée d'un investisseur étranger qui viendrait mettre de l'argent et pouvoir permettre à Postecoglou de dépenser comme il voudrait cet été.
Tu fais des petites lectures sites économiques
En Italie, on a beaucoup de sites comme ça. Il y en a notamment un qui est très très bon qui s'appelle Calcio e Finanza, qui traite beaucoup de l'actualité économique dans le milieu du foot. Pas que d'ailleurs, même aussi au niveau règlement, UEFA, FIFA, il y a beaucoup de choses très intéressantes.
Conséquence de cette défaite, Julien, aussi on y voit vraiment plus clair pour la Ligue des Champions, hein, tu commençais à le dire, mais Aston Villa qui a été battu d'ailleurs en fin de match par Brighton aujourd'hui 1-0, il sera la saison prochaine, quoi. Il y a très peu de doutes maintenant.
Il y a 7 points d'écart, il reste 3 matchs pour Tottenham, donc potentiellement 9 points, donc c'est pas encore tout à fait joué. Ils ont une différence de but plus 9 Aston Villa supérieure à celle de Tottenham, donc il faudrait quand même effectivement un effondrement total de Villa et de Unai Emery et que Tottenham remporte leurs 3 matchs, notamment celui contre Manchester City à domicile, pour pouvoir inverser la tendance, remonter au classement et dépasser et finir 4e, puisque maintenant on sait que la 5e place sera pas qualificative la saison prochaine, puisqu'ils ont pas bien travaillé les Anglais. Donc oui, effectivement, je pense que Villa et Emery, ça sent vraiment très bon et ils le méritent aussi parce qu'ils ont fait vraiment une saison assez incroyable, même si là ça s'essouffle un petit peu. Ils ont perdu contre l'Olympiakos jeudi soir en demi-finale de la Conference League, c'était très décevant. Là ils perdent encore, mais ils devraient juste y arriver, juste franchir la ligne quand il faut, et pour la Coupe d'Europe on verra jeudi soir le match retour au Pirée.
20h25, RMC Génération After spécial Drôle de Dame en ce dimanche soir sans Ligue 1 et avec la minute de Johan. Fredo qui danse, j'aime bien moi aussi, je vais pas vous mentir, j'aime bien.
C'est difficile de passer à côté en Italie en ce moment.
Ah, c'est le tube du moment là?
L'un des tubes du moment, Noemi, non bisogno di te, qui veut dire je n'ai pas besoin de toi. C'est un des tubes. Noemi est une chanteuse très populaire en Italie. Et pourquoi je n'ai pas besoin de toi? C'est Bologne, sa relation avec les buts. On a l'impression que Bologne pourrait aller en C1 sans marquer trop de buts. Ils n'ont
pas besoin de marquer.
Pas besoin de marquer de buts, puisque sur les 5 derniers matchs, il y a 3-0-0. Que ça s'essouffle un petit peu aussi quand même du côté de Bologne, un peu plus de difficultés. Ces équipes On évoque toujours dans les équipes surprises comment ils vont se comporter dans le sprint final, quand il y aura un peu plus de pression, d'attente, etc. Et c'est vrai que Bologne est un petit peu plus en difficulté à la fois dans le jeu, dans la création des occasions aussi, dans la finition également. Donc malgré tout, ça ne les empêche pas de prendre suffisamment de points pour le moment, parce que les autres clubs type Roma, Atalanta ont aussi quelques faux pas ou partent d'un peu plus loin. La Lazio encore qui est tout à fait dans la course. Donc Bologne n'aura peut-être pas besoin de marquer beaucoup de buts lors des dernières journées pour se qualifier en Ligue des Champions.
Tim, laisse traîner la musique en régie pour annoncer dans un instant justement l'équipe surprise en Espagne. Gérone qui a battu Barcelone, qui a renversé le Barça et qui a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça, c'est l'alerte. Ligue des Champions, justement. C'est le moment. Inscrivez-vous pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagnez vos places pour PSG Dortmund. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 732-16. PSG au 732-16. Petite pause et on est de retour avec nos drôles de dames. L'Espagne au programme. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est bientôt 20h30 et les drôles de dames sont là en ce dimanche soir. Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence et Fred Hermel pour lancer dès ce soir cette grosse semaine européenne qui nous attend avec les demi-finales retour de Coupe d'Europe. D'ailleurs, dans quelques instants, les nouvelles de l'Atalanta avec Johan, adversaire de l'OM jeudi, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, où on me demande, Fudo qui dit, Thibaut, c'est Gilles Verdez à côté de toi? Alors non, c'est Jean-Luc Roy, parce qu'à 22h sur RMC, vous avez le Grand Prix de Miami, Grand Prix de F1 de Miami à suivre tout à l'heure.
Le mythique Jean-Luc Croix.
Exactement.
Ouais, il raconte toujours des belles histoires.
Il est en train de préparer son Grand Prix, Jean-Luc. Ouais. Donc on sera là tout à l'heure. Restez à l'écoute d'RMC, bien évidemment. Il est beaucoup plus costaud, Jean-Luc, que Gilles Verdez. C'est pas le même gabarit, quoi.
Il y a un pilote de F1 qui adore le Real. Hein. Alonso.
Oui, enfin.
Alonso. Ouais.
À suivre les nouvelles de l'Atalanta, mais d'abord l'Espagne, justement, Fredo, on parlera du Real tout à l'heure, hein, champion ce week-end, mais d'ailleurs champion grâce à la victoire de Gérone, enfin à la défaite du Barça face à Gérone. Gérone, c'est finalement l'événement quasiment autant que le titre du Real ce week-end, mais qualifié en Ligue des Champions.
Ah, c'est un plus gros événement, c'est-à-dire que l'événement de l'année, c'est la qualification de Gérone pour la prochaine Ligue des Champions, quoi, au-delà du titre du Real. Vraiment, enfin, alors après, si le Real gagne la Ligue des Champions, on dira l'événement de l'année en Espagne, ça sera le Real qui gagne la Ligue des Champions. Mais là, franchement, personne pouvait imaginer ça, quoi. C'est-à-dire que Gérone, deuxième du championnat, qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que c'est aussi important que quand Leicester a gagné la première ligue, en fait. Ils n'ont pas gagné, mais là, c'est, non, mais faut voir ce que c'est. Vous savez que dans l'histoire.
Ça aurait été aussi important s'ils avaient gagné, quand même.
Ouais, bien sûr. Non, mais là, franchement, c'est leur quatrième saison en première division, quand même, de leur histoire. Et jamais une équipe ayant participé si peu à l'élite ne s'était qualifiée comme ça aussi rapidement pour la Ligue des Champions. Villarreal, c'était 6 saisons. Malaga, 11 saisons. Et Mallorca, 13 saisons. Voilà, 4 saisons, ils sont déjà en Ligue des Champions. Sincèrement, cette année de Diga n'a pas été magnifique. Et c'est grâce à Gérone qui a eu. Ça a été la bouffée d'air frais, le coup de soleil, tout ce que vous voulez de positif dans ce championnat.
Et hier soir, positif, un coup de soleil?
Ouais, enfin, je veux dire, l'éclairage du soleil. Je veux dire, c'était le grand rayon de soleil. Alors voilà, le grand rayon de soleil de ce championnat. Et en fait, hier soir, en voyant le match contre le Barça, où Gérone a été mené par deux fois, notamment après un magnifique but de Christensen. Alors ça, c'est voilà, maintenant qu'il joue milieu de terrain, il frappe au but et son but est absolument sublime. Mais il y a, je me disais, au-delà de toutes les tactiques, de tout ça, il y a un truc qui s'appelle l'enthousiasme, en fait. Et l'enthousiasme, ça change tout dans un match. Ça change tout dans un match.
Ça donne des ailes, tu vois.
C'est-à-dire, ils sont menés à deux reprises contre le Barça. Le Barça qui est pas trop mal dans le jeu, en plus, quoi. Mmh. Les mecs, l'entraîneur Michel fait rentrer Portou qui est un vieux de la veille, il est passé par plein de championnats, qui est un remplaçant à Gérone. Le mec, il met un but sublime, on met un deuxième, et il donne une passe décisive, et il gagne 4-2. C'est-à-dire, cette équipe de Gérone a mis 8 buts au Barça en deux matchs.
4-2 et 4-2, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a deux fois le même.
Donc c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a le.
Ils sont passés devant, d'ailleurs, en plus, au classement.
Là aussi, c'est-à-dire que c'est un gros problème pour le Barça, qui déjà ne s'est pas qualifié pour le Mondial des clubs.
donc c'est de l'argent en moins, et qui là risque de ne pas se qualifier pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, parce que ce sont les deux finalistes de la Coupe du Roi et les deux premiers de la Liga. Alors tout le monde y perd dans l'histoire, parce que la fédération perd moins d'argent, parce que quand il y a pas le Real ou il y a pas le Barça, c'est moins d'argent. Le Arabie Saoudite paye moins d'argent.
Mmh. Et puis bien sûr, la finale de la Coupe du Roi, c'était Bilbao, Mallorca, Gironde, voilà, Real.
Imagine,
le quatuor fait pas rêver.
C'est comme
fait pas rêver.
Voilà, c'est bien, mais oui. Voilà, c'est. D'ailleurs, ça coûtera moins cher. Les Saoudiens vont payer moins d'argent à la Fédé et Barcelone risque de perdre encore 5 millions. Et Dieu sait s'ils n'ont pas de quoi perdre d'argent en ce moment. Non, pour revenir sur cet enthousiasme qui est magnifique, voire des. Voilà, ils sont menés à deux reprises contre le Barça. Et ben non, ils y vont quoi. Ils y vont. C'est offensif. C'est allègre. C'est Alex, c'est un mot français, mais qu'on utilise beaucoup en Espagne. C'est un mot latin, mais c'est l'allégria, la joie en italien, c'est pareil. L'allégresse en espagnol. Et c'est vrai que je me demandais, est-ce qu'ils pourront faire la même chose l'année prochaine? Sûrement pas. Ils ont vécu sur un petit nuage comme ça. Ça va être dur l'année prochaine, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont vécu là, on leur en reverra jamais.
Il y a des joueurs qui repartiront à 3, qui vont y rester, bien évidemment. Enfin,
ça va... par exemple, on sait déjà qu'Eric Garcia va retourner au Barça, qui a été essentiel dans cette réussite de Gérone, le défenseur barcelonais. Il va retourner au Barça. Et puis il se pose la question de où Gérone va jouer la prochaine Ligue des Champions.
Ils ont le même problème que Francis Ndombé chez nous.
Voilà. Bah, en fait, Gérone cette année joue avec 15 000 places, mais sur les 15 000, tu as 9, le stade c'est 9 000, le stade en dur c'est 9 000, mais il y avait des gradins supplémentaires qui permettaient d'arriver à 15 000 spectateurs. Sauf que l'UEFA refuse ce genre d'installation. Donc la question, il y a plusieurs plans sur la table. Le premier, ce qu'aimerait tout le monde, c'est de faire des travaux. Ouais. C'est 20 millions d'euros, c'est 3 mois de travaux. Donc savoir si le club veut investir, si la ville veut investir. Bon, il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller à Montjuïc. Franchement, c'est pas idéal, parce que le Barça joue la Ligue des Champions l'année prochaine aussi, donc ça fait des calculs, etc. Puis franchement, le stade, les copains qui des RMC, notamment Manu Petit, ont eu très froid la semaine dernière contre le PSG. Il fait froid, c'est un stade pas très agréable. Ouais,
il fait froid, là, c'était la période.
Ben bah non, mais naturellement, il fait froid, parce que...
Oui.
La Ligue des Champions, ça joue en octobre, novembre, décembre.
Oui.
Il y a plein de vent et tout ça. Non. C'est Cornellà del Prat, le stade de l'Espagnol. Là, c'est un beau petit stade, 40 000 places. Franchement, adapté
à une équipe
comme Gérone. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais tu... Automatiquement, c'est une aventure. Les joueurs vont jouer avec des champions, mais c'est les supporters, quoi. Donc, les supporters, s'il n'y a pas de place, si t'as que 9000 places au stade, il y a plein de gens qui vont être en dehors de l'aventure, donc on comprend. Alors le maire de Gérone dit mais non, il faut absolument qu'on reste là parce que c'est une publicité pour la ville, on va faire venir des gens, etc. Après, il y a plein de trucs, il faut organiser une zone VIP, un parking spécial, il faut une plus grande salle de presse parce que
c'est tout ce qu'on a pour les mêmes problématiques pour le.
Bah voilà, c'est tout un système quoi. Franchement, moi je trouve que Cornellà ce serait super.
Y a pas que ça. En fait, moi j'ai l'exemple avec Union Berlin. Qui a joué les trois compétitions lors des trois dernières saisons. Et ce qui était extraordinaire, c'est que l'UEFA a refusé qu'Union joue dans son stade en Europa Conference League, l'a autorisé en Europa League et ne l'a pas autorisé en Ligue des Champions. Donc va comprendre, Charles.
Ouais, bah ça, oui.
Donc il y a des moments, et en plus j'ai discuté avec eux, j'arrivais pas à comprendre. Et la question de savoir si c'est intéressant de délocaliser ou pas est beaucoup plus complexe qu'on veut dire, parce que ça dépend aussi du nombre de personnes. En gros, si tu favorises l'argent en ayant 30 000 spectateurs plutôt que 9 000, etc. Je suis pas persuadé que les supporters soient heureux de voir délocaliser la compétition. En tout cas, à Berlin, en tout cas pour l'ancien club de l'ex-RDA, c'était pas forcément une bonne solution, même si ce fut un succès populaire très important parce que il y avait les 75 000 spectateurs.
Ouais, mais là, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est une centaine de kilomètres. Hein. Franchement, c'est organisable avec des bus, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
À Berlin,
je sais. Oui, bien sûr, il y a un attachement au club, au stade. Mais là, entre le fait de pas voir qu'il y ait une minorité de gens qui voient la Ligue des Champions dans leur stade et le fait de pouvoir plus de personnes, Je sais pas ce qui va se passer, mais a priori, je pense que ça, on se dirige là-dessus, hein, vers une délocalisation. Mais ils vont devoir prendre la. Il y a eu une déclaration de Pep Guardiola, qui est le patron de le frère de Guardiola, qui est le patron de Gérone. Là, ils sont en pleine réflexion par rapport à ça, quoi. Mais okay. Moi, sincèrement, j'aimerais bien les voir au stade de l'Espagnol à Cornellà, parce que c'est un beau petit stade qu'ils ont refait il y a quelques années. Et franchement, ça peut être.
Il y aura moins froid.
Ça peut être
moins
froid. Bah, non mais tu plaisantes par rapport à ça, mais toujours. Tu sais qu'il y a eu des problèmes d'affluence pour le Barça cette saison, parce que des matchs. C'est le match de lundi dernier. Il n'y avait pas grand monde dans le stade. Le soir, il faisait pas beau. C'est vraiment
la chaussure. Un peu, c'est Barcelone.
Mais non, mais il fait froid. Il y a les Montjuïc. Oh, bah non, Michel. C'est comme ça. Non, mais tu sais. C'est
le Barça, justement. Parlons-en. Il y a une semaine, 10 jours, là, juste avant le match retour, Xavi, il fallait qu'il reste finalement. Depuis éliminé, battu hier. On en est où? On ne comprend plus rien que ce Barça.
Le pire, c'est qu'ils n'ont pas mal joué hier, en fait. Mais ils ont été trahis par la défense, quoi. Enfin, par deux fois, ils mènent. Franchement, et là il y a une réaction, on voit du président Laporta qui dit no puede ser, c'est-à-dire c'est pas possible. Grosse nervosité après la rencontre, parce que en plus ça veut dire que tu offres le titre au Real, quoi. C'est-à-dire que c'est ça aussi en plus, quoi. Voilà, il fallait que le Barça gagne à Gérone pour ne pas offrir le titre comme ça au Real. Mais là aussi le problème qu'il y a aussi, c'est que on a l'impression que Xavi qui va continuer, même si aujourd'hui tu as certains chroniqueurs comme Josep Maria Casanova, des gens importants qui disent Xavi, t'es sûr que tu vas rester, parce que le manque de réalisme de Xavi, qui quand même explique, il a perdu les deux matchs contre le Real, il a perdu les deux matchs contre Gérone, il en a pris 8 contre Gérone, et il dit le problème, c'est que on a été supérieur à ces deux équipes. On a été supérieurs. Alors c'est vrai que dans le jeu, ils n'ont pas été mal, mais on a été supérieurs à ces équipes. Et ce sont des erreurs ponctuelles qui ont fait que nous avons perdu contre eux. À un moment, tu peux te reconnaître que ça va pas et que, tiens, tu perds tes deux matchs contre Gérone, tu perds tes matchs contre le Real et tu trouves que tu as été meilleur qu'eux. On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que tout le monde voit et ce que Xavi voit. Même si j'insiste, contre le Real, ils avaient été bons. Hier soir, ils n'ont pas été mauvais.
Polo.
Il en est où, Marc-André, là? Ter Stegen.
Il fait ses arrêts quand même, non?
Moi, je trouve qu'il est toujours là. Il est encore là.
Hein. Tu le trouves pas bon, Polo?
Ah si si. Moi, ah, si. Ouais. J'adore Marc.
Il est toujours bon.
Marc-André Ter Stegen n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Manuel Neuer.
Bah, bien sûr. Ouais.
Mais c'est
le nombre de fois il les a sauvés.
C'est ça.
Après, il a été blessé.
On en avait parlé, ouais. Fred. Tu te rappelles quand il a commencé à arriver, on se disait mais c'est qui ce mec-là? Puis il est devenu l'idole de tout un peuple. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a une petite campagne un peu contre lui, et peut-être il y a de la lassitude, je sais pas. Parce qu'il a quoi? Il a 32 ans maintenant, un truc comme ça. C'est tout jeune.
Mais de toute façon, ceux qui critiquent Marc-André Ter Stegen, ils ont qu'à voir ce qui s'est passé avec le Barça quand il était blessé, quand il y a eu son problème de dos là.
Ouais. On évoque souvent les problèmes défensifs du Barça, et il y a des choses effectivement qui sont assez étranges. Mais au niveau de l'attaque, il y a aussi, je regardais les stats offensives, les stats qualité de création d'attaque de la Liga. Par exemple, le Real et Gérone ont marqué 9 buts de plus que leur création totale d'occasion, qu'on regroupe un peu. Vulgairement sous le nom XG. Villarreal est aussi largement au-dessus. L'Atlético est au-dessus. Le seul qui est en dessous et qui sous-performe devant le but, et c'est le Barça, en fait. C'est... Tous les clubs espagnols du haut de classement sont meilleurs devant le but que le nombre d'occasions qu'ils créent. Le Barça est en difficulté, alors qu'il y a quand même un secteur offensif qui est quand même globalement, si on regarde les noms qui sont présents, etc., même les milieux de terrain qui sont censés être capables, d'amener plus de qualité, de technique, de création d'occasion, etc., bah, moi, je trouve qu'on s'y retrouve pas.
Non, on s'y retrouve pas. Et pourtant, il y a de bons joueurs, pourtant, il y a Takam Lewandowski, etc., mais vraiment, le problème cette année, c'est vraiment la défense, quoi. Par rapport à la saison dernière, qui avait été une défense record, là, cette année, c'est catastrophique. Ouais. Parce que hier soir, tu mènes deux fois et tu t'en prends quatre, quoi. Donc,
et le Barça qui conserve quand même 6 points d'avance sur l'Atlético 4e, normalement.
Ouais, mais ce qui compte, c'est la deuxième place. Mais là, ils sont à un point de cette fameuse qualification pour la Supercoupe d'Espagne.
Dans un instant, l'Italie et l'Atalanta. Comment l'Atalanta appréhende ce match retour face à l'OM jeudi? Et l'AC Milan, gros sujet du moment avec Johan. On avait trouvé un successeur à Pioli, finalement. Ce ne sera pas lui. 20h42, vous êtes sur RMC, c'est Génération After, spécial Drôle de Dame. On se retrouve dans un instant.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 20h44 et dans une minute ne débutera pas le match de Ligue 1 du dimanche soir. Et oui, nous sommes le 5 mai, pensez aux victimes de Furiani. Pas de match en France le 5 mai. Le Lille-Lyon prévu ce soir aura lieu demain soir 21h. Il sera en intégralité sur RMC, d'où cette soirée autour des drôles de dames. Johan Crochet, Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence sont là jusqu'à 22h. Ensuite ce sera l'after avec Gilbert Bribois. On vous attend au 32-16 pour, comme les lundis soirs, vos questions aux drôles de dames à 21h45. On est en direct également sur YouTube, le chat de la chaîne de l'after. Je lis, il y a quelques messages. Alors on nous dit ce soir, vous lisez pas de messages. N'hésitez pas à upgrader un peu le niveau des messages. Par exemple, il y a Fudo qui écrit Johan Crochet égale Nicolas Pallois. Voilà, c'est des messages comme ça que j'ai envie de lire
alors,
ce soir.
Alors Nicolas Pallois, parce qu'on n'a pas le même corps.
Oui,
mais
Nicolas Pallois.
Voilà.
Ouais. On a même Robert Redford plus Robert que Redford.
Voilà, de loin. Exactement ça. Voilà, le jeu des sosies, on adore ça également.
Thibaut, je connais pas ce mot.
Je le maîtrise pas de fou non plus, je vais pas te mentir, mais.
Alors Polo, si vous voulez élever le niveau des messages.
Alors Polo, je suis désolé, j'ai pas voulu te reprendre tout à l'heure. Tu as dit scoré.
Ah, j'ai discordé, ouais, parce que voilà.
Voilà, donc tu vois, j'ai pas voulu t'humilier, mais là, comme t'as ta Goyman. Voilà.
J'ai plus le droit, non.
Merci Polo.
Le upgradé, c'est dans le dictionnaire maintenant
Je pense que c'est possible que ça y soit, ouais. Tu sais, on est contaminé de partout par les mots anglais.
La défense de Fredo, c'est autre chose que la défense du Barça. Merci mon Fredo d'être là. À suivre, le Real, justement, champion. On va parler également du Bayern avec Polo et la minute de Julien. Mais d'abord, l'Italie avec toi, Johan. Et avant de parler de l'AC Milan et ses discordes entre la direction et les supporters sur le futur coach, l'Atalanta. Comment l'Atalanta, qui jouera demain d'ailleurs, appréhende ce match retour face à l'OM?
Il s'en serait bien passé de ce match à Salerne, parce qu'en plus, déjà Bergame, c'est pas à côté de Salerne, premièrement, même si le match a lieu à 18h. Parce qu'aussi, ils ne peuvent pas faire comme Dortmund, qui était assuré ce week-end d'être cinquième, quoi qu'il arrive, et donc de pouvoir faire tourner sans aucune incidence sur le classement ou le résultat à la fin de la saison en termes de performance collective. Là, l'Atalanta est dans une course avec notamment la Roma, mais la Lazio revient bien aussi, pour attraper cette cinquième place, décrochée grâce au classement voilà. UEFA.
Tiens, on me dit dans le chat.
Il faudrait mettre un euro à chaque fois.
Upgrade égale amélioré, on me dit dans le chat. Merci.
Exactement. Bah, amélioré.
Voilà. Ouais,
et donc, on s'en serait clairement bien passé parce que ça va forcément prendre un peu d'énergie. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est que Salerne est déjà relégué et que c'est très compliqué pour eux, même à domicile où ils avaient des performances plus élevées la saison passée. Là, c'est devenu très compliqué. Il y a aussi, on verra comment vont réagir les supporters, hein, parce que être relégué, le Stade les a beaucoup, beaucoup, beaucoup supportés depuis qu'ils sont de retour en Serie A, même dans les moments très difficiles. Ces derniers mois, ça a été vraiment mi figue, mi raisin. Il y a eu des sifflets, il y a eu des chants, des banderoles. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour ce soutien des supporters. Mais, on a évidemment le focus.
Ah non, mais c'est du latin.
Ouais, le focus sur. Ah, je me fie avec Polo qui m'attend avec.
Non, mais en fait, depuis que j'ai dit c'était 1 euro par mot anglais, là, ça y est, là, il fait gaffe.
Ça passe le latin, Polo, ou pas?
Ouais. Ben, je pense qu'on devrait apprendre tous le latin en Europe et ça serait une forme d'européanisation par la langue et la culture qui serait intéressante.
Rosas, Rosa, Rosae.
Bien évidemment. Donc, on a évidemment, et Gasperini l'avait dit avant le match aller au Vélodrome, il avait clairement expliqué la priorité, c'est l'Europa League. La prochaine priorité, ça sera évidemment la finale de la Coupe d'Italie, qui est aussi très importante pour un trophée. On a vraiment l'impression qu'ils sont à la chasse au trophée cette saison, qu'ils veulent valider tout le travail qui a été bien effectué par les dirigeants, par les joueurs, par l'entraîneur, le staff, etc. Et ça, ils veulent le valider par un trophée.
Mais juste, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a digéré cette demi-finale aller contre l'OM? Parce que tu vois, nous en France, et c'est un peu, vous en avez parlé avec Polo lundi dernier. Il y avait cette atmosphère où en France, on disait que Paris était largement favori face à Dortmund, et c'était un peu l'inverse avec Marseille, où tout le monde disait un peu l'Atalanta est largement supérieure. Ouais. Finalement, le match de jeudi, Marseille était très bon. Et bon, mais, qu'est-ce qu'on en dit en Italie?
Bizarrement, beaucoup de confiance dans la presse italienne qui a plutôt apprécié la performance à Marseille. Moi, j'ai été assez déçu de la performance à Marseille, parce que non pas que l'Atalanta a été en dessous de tout, etc., mais Marseille a très bien gêné l'Atalanta et a été aussi à la hauteur sur le plan physique du défi qu'impose toujours l'Atalanta à ses adversaires. Après, techniquement, il y avait des choses à revoir, mais assez confiant du point du match nul ramené, aussi parce qu'on a tout de suite mis l'accent sur l'ambiance au Vélodrome, le soutien du Vélodrome pour l'Olympique de Marseille qui n'aura pas lieu au match retour, et aussi les performances à domicile et à l'extérieur de l'OM, à la fois en championnat et en Coupe d'Europe. Donc c'est quelque part, c'était la satisfaction de pas avoir perdu là-bas et d'avoir une bonne opportunité de te qualifier, et surtout le grand espoir, puisque dans le même temps la Roma a perdu à domicile contre Leverkusen et a très mal perdu et a été très dominé par Leverkusen. L'espoir de se dire, bah, finalement, la finale 100% italienne qu'on espérait, on ne l'aura pas. Mais si on peut en avoir au moins un des deux, ouais, ça sera très bien.
D'ailleurs, la Roma qui vient de débuter son match contre la Juve, hein, ce soir, ouais, en Italie, 4 minutes de jeu, 0-0. Déjà une première frappe de Chiesa qui n'est pas passée très, très loin. L'AC Milan qui a fait match nul aujourd'hui, 3 buts partout, face au Genoa. On croyait l'histoire quasi réglée avec le successeur de Pioli. Ça devait être Lopetegui. Ouais. Et finalement, ce ne sera pas lui.
Non, parce que ça fait des mois que Milan bosse sur l'éventualité d'un changement d'entraîneur, et donc ils étudient les profils, qu'ils se renseignent sur comment les entraîneurs travaillent, qu'ils se renseignent au niveau des dirigeants, qu'ils se renseignent au niveau des joueurs également, pour essayer de récolter un maximum de données, qu'ils étudient justement les données au-delà même de la simple retour d'expérience des gens, mais aussi la donnée, la data, la fameuse data qu'on trouve beaucoup dans le foot et qui est si chère notamment à Redbird, qu'on regarde ce qu'il a fait ses dernières expériences. Notamment, on a beaucoup regardé, mon cher Julien, ce qu'il avait fait à Wolverhampton, et notamment comment il avait relevé cette équipe qui, je vais pas dire qu'il filait en championship, mais de mémoire, ils étaient relégables quand Lopetegui arrive, et il avait remonter l'équipe avec des matchs vraiment références, notamment contre des grosses équipes. Donc il y avait tout un travail très important qui avait été fait, et des retours vraiment excellents sur Lopetegui, y compris au Real, alors que ça a pas duré très très longtemps, mais dirigeants et joueurs du Real ont des très bons souvenirs de Lopetegui, au niveau de la sélection également. Donc on a fait tout ce travail, on était prêt à signer, et puis bah malheureusement le timing fait beaucoup de choses parfois dans le football. Et le timing, ça a été élimination en Europa League contre la Roma après, avec deux matchs catastrophiques du côté de l'AC Milan. Ça a été un derby perdu, là encore, après une prestation très compliquée, et qui a donc donné le titre sur sa propre pelouse. Ils partagent la même pelouse, mais c'est l'AC Milan qui recevait, qui a donné le titre à l'Inter. Donc tout ça a été très très mal vécu par les supporters. Et donc dès que le nom de Lopetegui est arrivé avec une manière insistante dans la presse italienne, notamment Sky, La Gazzetta, etc., eh ben on a eu des pétitions en ligne, on a eu les réseaux sociaux qui se sont enflammés, on a eu également la Courva Sud de Milan qui a expliqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. La Courva Sud, c'est le virage des supporters ultra. De l'AC Milan. Et donc, on a eu une espèce de fronde organisée, plus ou moins organisée d'ailleurs, avec notamment des influenceurs, enfin pas mal de choses. Et il semble que Jerry Cardinal a eu un peu peur. Jerry Cardinal, le propriétaire de l'AC Milan, qui est le mec de Redbird, le vrai propriétaire de Milan, qui a eu une crainte de se dire. C'est pas tant la crainte d'être critiqué à l'instant T, c'est la crainte de se dire, est-ce qu'on peut démarrer une saison, la prochaine, avec des supporters qui sont déjà mécontents du choix de l'entraîneur, et donc de commencer une saison avec une fronde des supporters qui va nous mettre dans une position quasiment intenable dès le début de la saison.
Mais ce qui est fou, c'est que j'ai pas l'impression qu'on parle de Lopetegui. Enfin, je sais pas, Fredo, tu vas me dire.
Mais moi, ça me paraît dingue.
C'est pas horrible, Lopetegui. Même, Lopetegui. Hein,
ouais, Lopetegui, c'était.
Oui. Mais j'ai l'impression qu'on parle de, tu sais, comme si Rudy Garcia devait arriver, avec la popularité qui est la sienne, qu'on aime ou pas.
C'est pas Lopetegui. Il a pas eu beaucoup de chance dans sa carrière. Enfin, c'est un très bon entraîneur. Enfin,
mais
c'est un super en plus. Donc, non, surtout, mais moi, je trouve ça. Mais moi, si tu me permets, cette dictature des supporters, moi, me dérange, quoi. Enfin, je veux dire, ça me dérange. Enfin, d'une partie des supporters. Comment
c'est sur les réseaux sociaux et c'est
oui, mais c'est ça. Enfin, parce que t'as employé des mots influenceurs, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière des. Il n'y a pas des gens derrière tout ça. Tu comprends?
Honnêtement, moi, j'ai vu le développement. Vous savez que la Bundesliga a moins de notoriété que différents d'autres championnats, déjà parce que la langue n'est pas la même et il n'y a pas la même immigration, etc. J'ai vu en France se développer ces sites pro Bayern, pro Leverkusen, pro ce que tu veux, etc. Tu vas dessus. À part vomir sur les joueurs, à part demander le changement tous les deux mois du coach, l'histoire du club, Je suis pas persuadé qu'ils la connaissent beaucoup. Je suis pas persuadé qu'ils soient déjà allés en Allemagne pour aller vérifier comment ça se passe dans le stade. Je suis donc toutes ces choses-là. Je sais pas si c'est vraiment intéressant
c'est
de ça.
C'est pas que ça.
Non, c'est pas que ça. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait aussi la Cour d'assises de Milan qui avait fait un communiqué, etc.
Des communiqués, tout ça. Ok.
C'est un peu des deux, et c'est sans doute ce qui a fait peur, parce que à la limite sur les réseaux sociaux, tu peux peut-être gérer contre tes présidents, et après chaque défaite, de toute façon, les dirigeants se font insulter, etc. Mais
ça, tu l'expliques, Yo, pourquoi?
Bon, moi je vois une chose.
C'est pas
claire.
Limpide, d'accord. Mais je veux
non,
dire,
à part une chose claire et évidente. Enfin, il y a deux choses. La première, quand je parlais du timing, c'est clair, c'est que quand c'est sorti, tu restais sur des énormes déceptions et pas des petites. Offrir le
Scudetto. Il fallait critiquer le.
À l'Inter,
les dirigeants.
Il fallait leur mettre dans la tête quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, pour moi, c'est un manque de culture de beaucoup de supporters en Italie qui ne regardent que la Serie A et donc qui ne savent absolument pas qui est Lopetegui. Je vais vous donner un exemple. J'ai un bon ami journaliste à moi qui m'a envoyé une capture d'écran. Il parlait sur Twitter de Lopetegui en disant bah voilà, il a fait plein de bonnes choses, etc. Et le mec lui répondait ouais, mais Lopetegui il a réussi qu'à Villarreal. Problème, c'est que Lopetegui a jamais entraîné Villarreal.
Bien sûr.
Donc le manque de culture, il est évident. C'est-à-dire que les mecs ont juste dit Lopetegui, c'est pas Tuchel, c'est pas Guardiola, c'est pas je sais pas, vous prenez Nagelsmann, ce type d'entraîneur dont les supporters de Milan rêvent. Et ils se sont dit, bah, nous, on veut pas de ce mec-là. Ouais. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est Antonio Conte, par exemple. Il y a beaucoup de supporters qui auraient adoré avoir Conte.
Ah, bah, au niveau du jeu, c'est pas la même chose, hein.
Déjà, au niveau du jeu, c'est pas la même chose. Deuxièmement, il faut quand même leur rappeler que la finale de l'Europa League 2020 opposait Séville à l'Inter. Et celui qui a mis une leçon de football à l'autre,
bah,
il était sur le banc de Séville, c'était Lopetegui.
Bah, ouais.
Troisième chose, c'est qu'avec Antonio Conte, bah, pour passer la phase de groupe de Ligue des Champions, c'est compliqué. Quand t'as des ambitions en Ligue des Champions comme la Redbird, bah, pourquoi s'appuyer sur Antonio Conte? Et quand il passe la phase de groupe de la Ligue des Champions, Antonio Conte, il tombe contre l'AC Milan, mon cher Julien, et il se fait éliminer par l'AC Milan de Krunic, Messias, Thio et Tomori. Mmh. Peut-être se détendre un peu avec les noms et regarder.
On a récupéré Lopetegui chez nous, hein. Il va venir à West Ham normalement pour remplacer le dinosaure David Moyes.
Mais en fait, le problème de Lopetegui, c'est qu'il a manqué de chance. Il a eu sa décision dingue d'un type qui a mal fini, hein, qui s'appelle Rubiales, hein, l'ancien président de la fédération. Je vous rappelle qu'il l'a viré 48 heures avant le début du mondial russe, hein, en 2018, parce que il avait annoncé avoir un accord
avec le Real.
Après la Coupe du Monde, après au Real. Et puis au Real, quand tu viens de passer, tu passes derrière Zidane, qui vient de gagner 3 Ligues des Champions, automatiquement, c'est compliqué, quoi. Donc, il a pas eu de chance, Lopetegui, mais c'est un très bon coach.
Et il y a surtout une chose, c'est quel précédent ça va créer, ça?
Ah bah,
le nouvel entraîneur qui va arriver, si au bout de 10 matchs il y a des problèmes, on remet la pression, on refait des tweets, des je sais pas quoi, des communiqués de la Coupe Assoud.
Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Peut-être Pioli d'ailleurs, à suivre.
Non, Pioli évidemment. Non.
Pioli non, c'est fini. Pioli c'est fini, comme le dit la chanson.
Bien sûr, il y a 415 noms annoncés maintenant.
Dans un instant, la minute de Polo et le Real champion en pleine confiance avant sa demi-finale retour face au Bayern. Toujours 0-0 entre la Roma et la Juve. Barre transversale à l'instant, trouvée par la Roma. 20h57, vous êtes sur RMC, c'est Génération After spécial Drôle de Dame en cette fin de week-end en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.